Ce matin, nous allons poursuivre notre étude, notre regard sur cette thématique que nous avons débutée dimanche passé, la destinée éternelle de Jérusalem. Alors ce matin, je vous demande de vous accrocher. Il y aura pas mal de passages bibliques. Je ne sais pas si j'arriverai au bout de tout ce que j'ai à préparer pour vous, mais je pense que nous allons apprendre des choses intéressantes ce matin. Nous avons vu qu'il est inévitable que nous ne soyons pas attirés par le nombre de fois que Jérusalem figure dans notre lecture biblique. Ça revient continuellement. Plus de 800 fois, le nom de Jérusalem figure dans l'ensemble de la parole de Dieu. Elle est appelée aussi la ville du grand roi. Elle est souvent appelée Sion, S-I-O-N. Ce n'est pas la ville du Valais, mais c'est Sion, la ville sainte, la ville de David ou la ville bien-aimée. Nous avions également remarqué par des prophéties, dont celle de Ézéchiel 5:5, qui nous dit que Dieu a placé Jérusalem au centre et les nations autour d'elle. Et on peut se demander, mais pourquoi cette élection et pourquoi ce centre du monde, Jérusalem? Il faut dire que l'élection et les choix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément discuter, mais qu'il faut accepter. Dieu est Dieu. Il a le droit de choisir et d'élire qui il veut, n'est-ce pas? Et nous voulons apprendre à être d'accord avec ce que Dieu dit, à aimer ce que Dieu aime et bénir ce que Dieu bénit. Depuis Josué chapitre 10 jusqu'à l'Apocalypse, Jérusalem apparaît partout. Et dans ce choix de Dieu, il y avait cette intention divine. En choisissant une ville, ce n'était pas la plus grande, elle était même complètement à l'écart des grandes routes, elle était modeste, encore aujourd'hui, elle n'atteint même pas 1 million de personnes. Et cette ville, à l'écart de tout, Dieu aurait pu choisir Alexandrie, Constantinople, etc., d'autres grandes villes qui étaient des centres du monde, pourquoi pas Rome, ou quoi, que sais-je, ou Genève. Mais Dieu a choisi Jérusalem, c'est son choix, dans le but qu'à partir de là où il a établi sa présence au travers du temple, il voulait rayonner autour pour être une bénédiction, pour avoir un impact, pour que le monde voit une différence entre une ville qui est gérée et dirigée par Dieu lui-même et les autres villes qui sont gérées de manière humaine. Il voulait qu'il y ait cette différence, qu'il y ait cette place d'honneur donnée à Dieu et puis la différence qui se fait voir, puis que cette gloire à travers la présence de Dieu à Jérusalem puisse avoir un impact, un rayonnement, une attraction parmi les nations. C'était ça son but, que la bénédiction soit partagée, que le bonheur soit partagé et qu'il y ait un vrai témoignage de l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les autres nations. Or, lorsque nous lisons les prophéties, nous voyons qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faites à Israël et à Jérusalem. Beaucoup de jugements et beaucoup de corrections. Pourquoi ? Parce que c'est la ville de Dieu. Cette ville lui appartient. Et lorsqu'elle fait quelque chose qui n'est pas juste, Dieu, son Seigneur et son Roi, la corrigera. Tout comme nous, ne corrigeons pas les enfants du voisin, mais nos propres enfants, si nécessaire. Dieu va corriger, Dieu va être celui qui va dire « Je vous ai choisi, je vous ai élu, je vous ai aimé, je vous avais reçu les preuves de ma présence. » Mais si vous faites faux bond, si vous faites le contraire, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Et Dieu va donc, avec l'élection, avec les privilèges, donner cette responsabilité. Et malheureusement, malgré tout cela, Israël est devenu rebelle, a rejeté Dieu, est devenu, comme disent certains textes, pire que les nations. Ils ont fait des choses pires que les nations. Donc, on peut comprendre que le jugement va être très sévère pour Jérusalem. Car Dieu est un Dieu de justice qui va corriger sa ville choisie. Cependant, Dieu est tellement patient, tellement persévérant. Il ne lâche pas facilement quelque chose. Dieu va continuer avec cette ville difficile, rebelle, qui va virer dans une religion figée, dans un légalisme incroyable. Dieu va dire, ça devient de plus en plus compliqué, comment vais-je faire? Dieu n'est jamais pris de court, et c'est pour ça que nous avons toute une série de prophéties de restauration. Si Dieu peut corriger, restaurer une ville comme Jérusalem, il peut restaurer n'importe qui et n'importe quelle autre ville. On dirait que Dieu a choisi la chose, l'équation la plus complexe, avec le plus d'inconnus. Je veux dire par là que si Dieu a choisi Jérusalem, c'est juste son choix personnel, mais il choisit manifestement une ville qui posera beaucoup de problèmes. Mais il va réussir. La fin de la Bible nous dit que Dieu va réussir sur tous les fronts. Sa gloire se manifestera. Et il ne se repentira pas de ses dons et de ses appels. C'est l'apôtre Paul qui va le dire dans sa lettre aux Romains. Chapitre 9, 10, 11 vont nous expliquer finalement le pourquoi de cet amour pour Israël et ce que les chrétiens doivent faire et comprendre par rapport à Israël. Je vous laisse lire, nous allons juste prendre quelques extraits tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une restauration. Le plan de Dieu va réussir. J'aimerais ce matin que nous ayons cette foi de Dieu qui va dire « Mon plan va réussir ». Ça semble exactement le contraire dans l'histoire, mais aussi dans l'actualité. Mais son plan va réussir parce que Dieu est puissant, parce que Dieu croit que ce qu'il dit va vraiment arriver et il a le pouvoir d'honorer toutes ses promesses. Alléluia. Suivez-moi maintenant dans la lecture de Ésaïe chapitre 60. Quelques versets. Ésaïe chapitre 60. Je commence par le verset 1. « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité et les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portées sur les bras. À cette vue tu seras radieuse, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. » Je suis au verset 8 maintenant. « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ? Car les îles espèrent en moi. Les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois seront à ton service. Car dans mon indignation, je t'ai frappé, et dans ma faveur, j'ai compassion de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront ni fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leur suite. » Verset 14. « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Au lieu que tu sois délaissé, haï, et sans un passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet de réjouissance de génération en génération. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut, et à tes portes celui de louange. Ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta splendeur. Voici ces quelques versets, des promesses de restauration qui figurent particulièrement dans le chapitre 60 et suivant d'Ésaïe. Et on peut se demander, mais comment ça va se faire? Et quand ça va se faire? Seigneur, ça fait quand même longtemps qu'on attend que cette gloire incroyable se manifeste. Et je dirai tout à l'heure quelques mots sur ces versets que nous avons lus et qui nous étonnent de voir que le Seigneur ramène ses fils et ses filles des quatre coins de l'horizon et qu'ils viennent comme des colombes qui s'envolent. Je vais vous dire ce que ça veut dire tout à l'heure. Lorsque l'on pense encore à Ézéchiel 47, lorsqu'on lit ce texte, que je ne vais pas lire maintenant, mais que vous lirez, où un fleuve vient de ce temple qui sera là à nouveau, alors qu'il n'est pas là maintenant, mais qui sera là, ce fleuve, à un moment donné, va sortir en dessous de la porte principale et va venir et va descendre les monts de Judée jusque à la mer morte, nous dit le texte. Géographiquement, c'est possible cela. Et lorsqu'il se jettera, ce fleuve, à une telle capacité, tel pouvoir que les eaux de la mer morte où il n'y a aucun poisson vont revivre et que partout il y aura quelque chose qui va, la vie va reprendre autour de cette mer morte. Quand, Seigneur, ça va se passer, ce grand miracle? Ta parole est la vérité, mais quand est-ce que ça va se passer? Quand est-ce qu'il y aura ce nouveau temple? Regardez avec moi dans l'Apocalypse 21-23, chapitre 21, verset 23, qui rejoint ce que nous venons de lire au chapitre 60 d'Ésaïe, où il est dit qu'il n'y aura plus de lumière, plus de soleil, pardon, plus de lune, mais l'Éternel sera ta lumière. Il est dit, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu va l'éclairer. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y a pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On n'entrera chez elles rien de souillé, rien ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tout à la fin de l'Apocalypse, nous retrouvons Jérusalem et je vais aussi dire quelques mots à ce sujet-là. Frères et sœurs, tout ça, c'est à venir. Ça, nous le savions. Et les apôtres, au moment où Jésus va repartir dans le ciel, ils vont dire, Seigneur, est-ce maintenant que toutes ces prophéties vont s'accomplir? Est-ce que c'est maintenant que le royaume d'Israël va s'installer, va venir? Ils avaient hâte, comme tous les Juifs, ils ont hâte que ces prophéties s'accomplissent. Nous aussi, on aurait hâte de dire, Seigneur, restaure tout cela. Et Jésus va leur répondre que ce n'est pas à eux de connaître les temps et les moments fixés par Dieu. Les temps sont dans la main de Dieu. Nos temps sont dans sa main aussi. Mais Jésus va dire, ne vous faites pas de soucis, Dieu aura le dernier mot, ça va se faire. En attendant, il dit, priorité numéro une, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Son plan est éternel. Mais Jésus va dire, votre part, disciple, c'est d'être témoin à Jérusalem, dans la ville bien-aimée d'abord. La ville bien-aimée, Sion céleste, Sion terrestre, doit recevoir d'abord l'évangile, prioritairement. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Commencez par l'endroit le plus difficile, là où ils ont crucifié le Seigneur, là où la bonne nouvelle a été rejetée, là où il y a les religieux de la pire espèce, on va dire. Il n'est pas question de la destinée éternelle de Jérusalem dans les paroles de Jésus, mais il est question du témoignage à laisser dans Jérusalem. Déjà, cela nous oriente. Aujourd'hui, comme toujours, l'évangile doit être annoncé partout. Et Jésus va le dire, et l'apôtre Pierre va le dire, et l'apôtre Paul va le dire. Ça doit être annoncé aux Juifs premièrement, puis aux autres après. C'est une priorité biblique. Alors, ça ne veut pas dire que nous devons tous maintenant immigrer en Israël pour témoigner à Jérusalem. Cependant, les priorités de Dieu doivent rester sous notre cœur et dans nos prières, afin que ce peuple élu reçoive enfin la bonne nouvelle de Jésus. Et l'encouragement d'aujourd'hui, alors que nous sommes en 2018, c'est qu'il y a beaucoup de Juifs qui se convertissent. Alors qu'en réalité, on va dire dans des termes très populaires, ils sont des durs à cuire, difficiles à atteindre. Jésus l'a dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Acte 2, 14, à la prédication de Pentecôte, Pierre va dire, « Vous, Juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, c'est vous qui avez fait mourir le Christ. » En le clouant à la croix, il va appuyer là-dessus. C'est les Romains qui l'ont cloué, mais c'est vous les Juifs. Vous avez une responsabilité. Et Pierre n'a pas honte de le dire au risque de sa vie, probablement. Et il va le dire sous l'onction du Saint-Esprit, que dans ce lieu le plus difficile, eh bien c'est là que le Saint-Esprit a été répandu. Et c'est que là qu'il y avait l'onction, il y avait là l'onction pour toucher les gens dans l'endroit le plus compliqué. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu habites un endroit compliqué. Peut-être que tu habites un endroit ténébreux, difficile à atteindre, où personne ne veut t'écouter. Dieu te donnera également l'onction pour que tu puisses atteindre l'endroit le plus difficile et que tu puisses briller là où les ténèbres sont épaisses. Jérusalem était compliquée, très difficile, je l'ai dit. Jérusalem a rejeté le Seigneur. Et pourtant, c'est là que le Saint-Esprit a été répandu. Maintenant, j'aimerais vous entraîner dans une méditation que j'ai faite en regardant ce que Paul a vécu lui-même à Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 21 à 23, nous lisons en détail ce qui se passe pour Paul, qui fait son cinquième voyage à Jérusalem. Je ne vais pas vous dire quels sont les quatre autres, il faut faire une recherche pour cela. Il a été cinq fois à Jérusalem. Il va dire au chapitre 18, par exemple, il va dire « Il faut absolument que j'aille à Jérusalem ». Il va dire au chapitre 19, verset 21, qu'il a formé le projet d'aller à Jérusalem. Il a à cœur de retourner dans cette ville pour ce dernier voyage qui, comme vous le savez, va se solder par une espèce d'émeute à Jérusalem. Paul va échapper de justesse et il va être fait prisonnier. Ce sera sa protection d'ailleurs. Il va être mis en Césarée pendant 2 ans et puis il va partir prisonnier à Rome. Paul avait... Pourquoi voulait-il, lui, l'apôtre des païens, qui avait reçu un appel précis pour les nations non-juives, pourquoi voulait-il tellement retourner à Jérusalem? Il y avait des membres de sa famille qui habitaient Jérusalem. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sa sœur habitait là, semble-t-il, avec son neveu qui va d'ailleurs être un élément clé pour le sauver dans cette fameuse émeute. Il va également, dans les voyages précédents, avoir cette affection pour Jérusalem. Parce que pour tout juif, Jérusalem, ça compte énormément, n'est-ce pas? Ça compte. Et Paul, qui est aux quatre coins de l'Empire romain pour l'évangélisation, principalement en Asie mineure, et il est attiré vers Jérusalem, il prie pour Jérusalem et il est juif dans l'âme. Il a une grande affection pour cette ville qui représente tellement pour lui et pour Dieu. Et là, il va à un moment donné récolter des offrandes parmi les villes non-juives, bien sûr, les villes de l'Empire romain, et il va venir avec des offrandes pour les donner à Jérusalem. C'est étonnant. Il y avait, nous dit la Bible, beaucoup de pauvres à un moment donné. Il y avait une famine, beaucoup de pauvreté. Et l'apôtre Paul va dans les villes lointaines de l'Empire romain. Eh bien, il va récolter des offrandes. Il va demander qu'on se souvienne des pauvres à Jérusalem. Et lui-même va être transporteur de fonds. On se demande si c'est vraiment le travail d'un apôtre, ça. J'aurais pris quelques gardes du corps. J'aurais pris quelques diacres bien, ou quelques banquiers, je ne sais pas qui. Mais un apôtre, doit-il vraiment être transporteur de fonds? On peut se demander pourquoi il a voulu faire ça lui-même, mais il avait une affection démesurée, énorme pour Jérusalem. D'ailleurs, il va dire, dans cet amour qu'il a pour Jérusalem et pour Israël, il va dire dans Romains 9, quelque chose d'incroyable que je n'oserais jamais dire. Il dit « Je souhaite être anathème et séparé de Christ pour mes frères ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de prière, moi je n'oserais jamais la faire. Je suis prêt à perdre mon salut, à donner mon salut si c'était possible pour que mes frères soient sauvés. Il avait un amour juste étonnant et incroyable. Il va dire dans Romains 10, verset 1, « Le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il était convaincu, et il faut lire Romains 11 en entier pour cela, il était convaincu que Dieu n'avait pas rejeté son peuple. Il va le dire, lisons-le ensemble, Romains 11, 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc Dieu n'a pas rejeté Israël, qui pourtant est responsable, en tout cas les religieux sont responsables de la crucifixion de Jésus. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il est touché par Jérusalem, comme Jésus qui, nous l'avons dit dimanche passé, a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré 3 fois. Une fois devant la tombe de Lazare, il a pleuré à Gethsémané, mais il a aussi pleuré sur sa ville, Jérusalem, qui ne le recevait pas, qui laisse passer l'occasion du salut. Mais dans cet acte, dans Actes 21, 22, 23, on sent que Paul veut encore une dernière fois faire une démarche vers Jérusalem. Il veut encore une dernière fois essayer de témoigner au centre même de Jérusalem, à l'endroit le plus difficile. Alors qu'il a été persécuté par les Juifs partout où il a passé. Si vous lisez les Actes, partout où il a implanté une église, les Juifs lui cherchaient misère. Les Juifs religieux l'ont même persécuté de ville en ville. Il partait d'une ville en équipe pour l'embêter dans l'autre ville où il était. C'était juste horrible. Et pourtant, il revient au centre d'Israël, il vient à Jérusalem, pour quelque part risquer sa peau, risquer sa vie. Pourquoi cet amour démesuré? On dirait que Dieu, au travers de lui, veut étendre sa main une ultime fois pour essayer de réveiller cette Jérusalem religieuse mais rebelle, aux yeux fermés, aveuglée, séduite et perdue. Dieu veut encore la rattraper au travers de Paul. Alors que Paul, dans ce chemin, nous dit la Bible en détail, dans ce chemin vers depuis Éphèse jusqu'à Jérusalem, il est arrêté à 2-3 reprises par des prophéties. Et entre autres, le prophète Agabus, qui est un homme, un prophète reconnu, va montrer qu'en enlevant sa ceinture, en liant Paul, il va dire « C'est ceci qui va t'arriver, tu vas être lié. » Et regardez ce que Paul va dire. Acte 21, 13. « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Regardez cet amour. Il sait qu'il aura des problèmes. Dieu l'avertit. Est-ce que Dieu l'avertit pour qu'il n'y aille pas ? Ça reste un peu mystérieux, ce texte. Est-ce qu'il aurait dû obéir à la prophétie et dire « Stop, Dieu m'avertit, je ne vais pas risquer ma vie, je vais plutôt fuir, aller ailleurs » ou est-ce que cela le préparait à ce qui allait venir et que malgré tout, l'attraction intérieure, l'amour intérieur était plus fort que tout ? C'est une question. Il va encore dire, acte 20, 22, « Maintenant voici, lié par l'Esprit. » Acte 20, 22, lié par l'Esprit. L'appel de Dieu, quelque part c'est ça, c'est être lié par l'Esprit. Les bons conseils, les conseils de sagesse, n'y va pas, ne fais pas, vont arriver à votre oreille si vous avez un appel. Mais s'il y a ce lien de l'Esprit que seul vous-même vous pouvez expliquer et comprendre, mais pas les autres, alors vous irez contre vents et marées, même dans des situations périlleuses et dangereuses, parce que vous êtes liés par l'Esprit. Il y a quelque chose de spirituel, d'incompréhensible qui est là. Et combien de fois je l'ai entendu ? Pourquoi vous allez là-bas ? Pourquoi vous faites ceci ? Pourquoi ? Ça ne rapporte rien, c'est dangereux, etc., etc. Lié par l'Esprit, c'est juste une compréhension personnelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin ? Mais quelle persévérance ! Il croit, l'apôtre Paul croit qu'il aura encore un impact. Lui, l'ancien persécuteur, l'ancien juif orthodoxe, qu'il était contre les chrétiens, il croit qu'il aura encore un impact. Pourtant, le Seigneur lui avait dit dans Actes 22, 18, nous sommes toujours dans ces textes de ce dernier voyage vers Jérusalem, « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. » Donc il avait déjà été averti que ce sera chaud à Jérusalem, ce sera dangereux. Et Dieu lui dit, « Maintenant c'est le temps de sortir. » Pourtant, il revient, c'est incroyable, lié par l'Esprit. Et cette fois, il ne peut pas rendre témoignage correctement. La Bible nous dit qu'il n'a pas réussi à dire grand-chose. Une virulence sans précédent, le texte serait trop long à lire, vous le lirez, acte 22 à 23, une virulence va se démonter, il y aura carrément 40 personnes qui vont jurer que coûte, ils vont avoir la peau de Paul, ils vont le tuer. Ils ne vont pas lâcher tant que Paul n'est mort. C'est pour ça qu'il y aura un immense garde du corps avec plusieurs centaines de soldats qui vont le protéger pour ne pas qu'il soit mis à mal. Il y a cette opposition frontale entre l'appel d'Israël et le monde païen. Vous savez que Jésus a dit « Je vais enlever ce mur de séparation entre juifs et non-juifs ». C'est le mur le plus difficile à enlever du monde. C'est ce mur-là. Jésus l'a enlevé. Et lorsque Paul arrive à Jérusalem, il représente cela. Il est juif et il a donné sa vie pour les païens. Et les juifs orthodoxes ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne peuvent pas saisir cette grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre la grâce. Ils sont fermés au salut en Jésus qui a mis Israël au pied d'égalité avec les nations au niveau du salut. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc ils vont être le plus violent possible pour stopper Paul. Paul va donc non plus être délivré comme dans acte 16 où il a chanté avec Silas en prison à Philippe et les chaînes sont tombées, il y a un tremblement de terre, il est libéré, mais là il n'y a rien. Il est fait prisonnier et il restera en prison. Par contre, Dieu a sa main sur lui. Dieu ne juge pas Paul, Dieu ne lui reproche rien en disant « Paul, tu as été trop loin là, tu as laissé ton émotion et ton affection naturelle pour Jérusalem triompher sur l'appel. » Non, Dieu ne lui reproche rien nulle part. Dieu voit son amour pour Israël, son amour et son ultime essai de toucher encore Jérusalem. Dieu le voit. Et Dieu va utiliser même Paul prisonnier, qui ne sera pas délivré, pour écrire des épîtres précieuses que nous avons dans notre Bible aujourd'hui, dans la prison. Connaissez-vous les épîtres de la prison ? Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Paul, c'est en prison qu'il a écrit ces lettres-là. Dieu sait sortir un bien d'un mal. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet amour pour Jérusalem que je vois dans la vie de Paul, cela m'a interpellé. Et dans la suite, il est étonnant de voir dans le Nouveau Testament qu'il est très peu question de Jérusalem. Ne trouvez-vous pas que c'est étonnant qu'aucun apôtre ne fait mention de la chute de Jérusalem qui a été rasée en l'an 70. Ça a été la grande catastrophe pour Israël. Jérusalem a été rasée par les armées de Titus après un long siège. Mais on ne trouve rien de cela dans le Nouveau Testament. La prophétie de Jésus le disait, oui, mais après coup, l'apôtre Jean a vécu quand même jusque l'âge de pratiquement 100 ans. Il n'écrit rien de cela. Par contre, il va écrire sur la Jérusalem céleste. Donc on peut dire, quand est-ce que toutes ces prophéties de Ésaïe et les autres vont-elles s'accomplir? Si le Nouveau Testament ne fait à peine mention de Jérusalem, mais alors, quand est-ce que ces prophéties de restauration de la gloire d'Israël vont-elles avoir lieu? Quand est-ce que Israël et Jérusalem vont reconnaître le Messie? Ce n'est pas gagné, manifestement, parce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 11 qu'ils ont reçu un esprit d'aveuglement et d'endurcissement, mais qu'il y a toujours un reste. Il va le dire au verset 5. Il y a un reste. C'est pour ça qu'il se bat. Il sait que Dieu a toujours une main qui arrive à toucher quelqu'un qui est difficile à atteindre. Il y a toujours un reste quelque part. Dans ta famille, mon frère, ma sœur, il y a aussi un reste. Il y a quelque part des gens qui vont encore écouter, qui vont encore croire, même si tu as l'impression que tout est fermé. Dans Romains 11, il nous est dit au chapitre 11, versets 11 et 12 et suivants, « C'est par leur chute, donc la chute d'Israël, que le salut a été ouvert aux païens pour provoquer une jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde, bien sûr, et leur amoindrissement, la richesse des païens, alors imaginez-vous, le juif dans l'âme, c'est quelqu'un de fier. » C'est quelqu'un qui, et Dieu doit se battre avec l'orgueil juif, l'orgueil d'Israël qui se croit quelqu'un parce qu'ils sont élus, qu'ils ont été choisis, qu'ils ont des compétences, qu'ils ont des capacités. Mais Paul va dire, leur amoindrissement, leur humiliation était nécessaire pour que la richesse des nations soit visible par l'Évangile, bien sûr. Mais comment en sera-t-il quand ils se convertiront tous, va-t-il dire? Donc il y a l'espérance de la conversion. D'un grand reste, oui. Je ne veux pas, frère, au verset 25, il dira, Romains 11 toujours, Romains 11, 25, je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, car ça reste mystérieux, ça reste humainement incompréhensible. Afin que vous ne regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et alors tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il se détournera de... Et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Le salut pour Israël est encore en marche. Jour après jour, il y a des Juifs qui se convertissent, et cela est biblique, cela que le nombre est en train de se remplir pour arriver jusqu'au nombre total, et ce reste est en train de grandir. De plus en plus de Juifs acceptent le Messie maintenant. Mais dans l'histoire de l'Église, cela a créé un grand, grand, grand problème. La difficulté d'annoncer aux Juifs l'Évangile a permis, malheureusement, à beaucoup de pères dans la foi d'avoir une mauvaise compréhension du plan de Dieu. Par exemple, des pères de l'Église très connus comme Tertullien, Origène, Jean Chrysostome et Jérôme Augustin aussi, toutes ces personnes ont interprété la dispersion d'Israël, des Juifs, comme étant un châtiment divin à cause de la crucifixion de Jésus et du rejet du Messie. Augustin dira même qu'Israël est identifié à Caïn, qu'il ne faut pas tuer, mais qu'il doit être vengé cette fois. Jérôme va dire au IVe siècle qu'Israël est ce figuier stérile des évangiles duquel Jésus a dit que jamais le fruit naisse de toi. Et Eusèbe de Césarée, un peu plus tard, dira aussi, il va utiliser le mot qu'Israël est déicide, ça veut dire qu'ils ont tué Dieu. Ensuite, dès que Les chrétiens seront libres sous les empereurs romains, donc toute la période byzantine. Eh bien, les droits des juifs seront limités. Il y aura des ghettos, des conversions forcées, etc. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, il faudrait dire beaucoup de choses. Et est arrivée la théologie du remplacement, c'est-à-dire que Dieu a mis Israël de côté définitivement. C'est l'Église qui prend sa place. Et Israël hérite de toutes les promesses. Alors, nous avons les promesses en Abraham qui sont pour nous, mais le plan de Dieu pour Israël reste debout. Toutes les promesses pour sa terre et pour son avenir de gloire restent debout. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans la théologie du remplacement. Nous sommes connectés à Israël sur la même souche. Nous avons été greffés sur l'olivier qui est le Seigneur et ses promesses lui-même. Sa souche a été plantée par le Seigneur. Nous sommes là-dessus. Et nous avons malheureusement que même dans la réforme, et Luther en particulier, on n'en parle pas souvent, mais Luther qui a essayé de témoigner aux Juifs et qui s'est heurté à un mur, il va dire que les Juifs sont durs comme le diable et il préconise de brûler leurs livres et de les expulser. Luther a une facette alors qui est sombre dans l'élan de la réforme qu'il a amené dans toute l'Europe et par la suite dans le monde. Eh bien, cette facette-là reste une ombre énorme dans cette réforme. Il faut le savoir. Imaginez-vous, frères et sœurs, que tout ça, ça dure depuis les premiers siècles. Admettons, à partir du IIIe siècle déjà, tout ce rejet d'Israël, dispersé, le temple détruit, les Juifs dispersés dans le monde, eh bien, cela dure depuis le IIIe, IVe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais il y eut un jour, le 14 mai 1948, au lendemain où le diable a essayé de briser définitivement les restes d'Israël, en faisant passer 6 millions de Juifs dans la Shoah, en les tuant, je ne m'étends pas là-dessus. Au milieu de cette détresse et au lendemain de la Shoah va naître le pays d'Israël. Une naissance prophétisée, un pays peut-il naître en un seul jour, dira le prophète Ésaïe. Oui. Et on pourrait dire beaucoup de choses parce que depuis, et déjà un peu avant, mais surtout depuis, eh bien les prophéties s'accomplissent. Ésaïe 11. Je rassemblerai les bannis d'Israël, je les recueillerai des quatre coins de la terre. Oui, il est bien question d'un retour d'Israël des quatre coins de la terre. Ce n'est pas le retour d'Israël depuis l'Égypte, c'est des quatre coins de la terre. Ésaïe 43, 5. Ne crains rien, je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donc au nord, donne. Et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Le retour des Juifs sur leur terre a été prophétisé par Ésaïe, par Jérémie, par Ézéchiel. Alléluia. Jérémie 16 nous dit, c'est pourquoi, verset 14, les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où ils avaient été chassés. Je les ramènerai dans leur pays. La prophétie s'accomplit, mes amis. La présence d'Israël aujourd'hui dérange le monde arabe particulièrement. Même aussi, toute l'ONU est dérangée tout le temps. Mais la prophétie va gagner, elle ne peut pas être anéantie. On ne peut pas lutter contre Dieu éternellement, mes frères. On ne peut pas lutter contre Dieu. Tôt ou tard, ça se retourne contre ceux qui luttent contre Dieu. Ésaïe 60 nous dit, qui sont là qui volent comme des colombes, les gens viennent en avion pour venir sur leur terre. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ésaïe 49, je lève ma main, je dresserai ma bannière vers les peuples, ils ramèneront tes fils dans leurs bras, ils les porteront sur leurs épaules. Et un texte particulièrement puissant qui a été retrouvé sur à Masada, qui est c'est là que les Juifs avaient... C'était retranché, je ne vais pas entrer en détail sur cette période historique, mais à Masada, on a trouvé dans l'ancienne synagogue ce texte de Ézéchiel 37, où il est dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Les eaux sont desséchées, l'espérance est détruite, nous sommes perdus. Et prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Frères et sœurs, le retour des Juifs en Israël a été motivé par cette haine des Juifs qui s'appelle l'antisémitisme. Ça a été un des moteurs. Mais principalement, le grand moteur, ça a été les promesses de Dieu et la puissance de Dieu qui a enclenché tout cela. Jérusalem n'est pas oubliée. Nous ne sommes pas encore dans le temps de l'accomplissement de ces prophéties. Mais il y a un temps à venir et il faudrait étudier en détail Zacharie chapitre 12, 13 et 14 qui est assez difficile, mettre ensemble avec le livre de Daniel et de l'Apocalypse pour comprendre ce qui va encore se passer. Des temps dangereux vont venir. Il est dit par exemple dans Zacharie que Israël ou Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples et une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui chercheront à s'y cogner, à la faire bouger seront meurtris. Mais Dieu promet également dans ces chapitres qu'il y aura un réveil spirituel. Il est dit dans Zacharie 12, verset 10, qu'un esprit de grâce et de supplication sera versé sur Jérusalem. Et ils vont à un moment donné pleurer pour reconnaître le Fils unique. C'est une prophétie de la restauration de Jérusalem et de la conversion des Juifs. Zacharie 8, 21 nous dit, « Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, « Allons implorer l'Éternel. Cherchez l'Éternel des armées, nous irons aussi. » Beaucoup de peuples, de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Et je voudrais terminer. Il y a des choses très intéressantes qui sont à lire de l'Apocalypse. Entre autres que, et ça, c'est notre frère Jacques Ulegas qui m'a fait travailler là-dessus par un petit échange qu'on a eu, eh bien, dans l'Apocalypse, il n'est plus question que de la Jérusalem céleste. Par contre, il se passe des choses en Israël et à Jérusalem. Dans le chapitre 11, il y aura ces deux témoins qui vont manifester la puissance de Dieu dans Jérusalem, encore une ultime fois, là où Paul avait essayé. Ils vont venir avec puissance, parce que Dieu n'oublie pas sa ville. Ils vont venir montrer d'une manière particulièrement puissante et évidente la présence et l'élection de Jérusalem, mais ils ne vont pas y arriver parce qu'on va les mettre à mort. Et il est dit, écoutez bien ce qui est dit, ils vont être mis à mort dans cette grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc Jérusalem, dans les temps de la fin, ne va pas être en bon état. Il faudra un miracle complet pour restaurer Jérusalem. Pour restaurer l'être humain, il faut un miracle, mes frères et sœurs. Pour changer le cœur humain, il faut un miracle, il faut une nouvelle naissance. Jérusalem a besoin de cette nouvelle naissance, cette vie spirituelle qui va ôter le passé, qui va reconstruire quelque chose de neuf. C'est pour ça que Dieu construit à partir des ruines. Il va relever tout cela. Mais alors, quand ça va se passer? Puisque ça va aller de mal en pis et ça va se terminer de cette manière, j'ai une réponse personnelle, c'est ma compréhension. Dans Apocalypse chapitre 20, il est question du millénium. Après le retour de Jésus, il y aura 1000 ans de paix où Satan sera lié. Et c'est là que l'Éternel refera de Jérusalem et d'Israël le centre. Le centre va revenir à l'ordre du jour dans cette nouvelle période, cette nouvelle époque qui viendra du Seigneur. Ce temps viendra où le monde entier doit reconnaître de gré ou de force que le choix de Dieu reste le choix de Dieu et qu'on ne peut pas y toucher. Et que ces prophéties vont toutes s'accomplir par sa main puissante, par sa parole puissante et par l'Esprit de Dieu. Ça va être reconstruit dans le millénium. Ça, c'est ma version des choses. Et nous terminons par deux lectures encore. Hébreux 12, 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Écoutez, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Apocalypse 21, 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Frères et sœurs, ta destinée et ma destinée est intimement connectée à Jérusalem. Ce sera la Jérusalem céleste. Alléluia. La Jérusalem céleste. Oui, le Seigneur prépare tous les rachetés dans cette Jérusalem céleste qui est décrite qu'avec des fondements et des pierres précieuses partout. La description se trouve dans l'Apocalypse. Et le Seigneur va rassembler tous les élus rachetés dont le nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu as ton nom écrit dans le livre de vie? Si tu as ton nom écrit dans le livre de vie, tu feras partie de ce projet. Eh bien, le nom de Jérusalem sera même écrit sur toi. Celui qui n'aime pas Israël, il a un problème. Celui qui n'aime pas Jérusalem, il aura un problème. Seigneur, tu vas écrire le nom de ta ville sur moi. C'est marqué quand même. Hein? J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu qui descend. Et je pense aussi que nous qui serons dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, dans le millénium, il y aura la Jérusalem terrestre régénérée. Il y a une ville qui descend. L'apôtre Jean l'a vu descendre. Elle sera en connexion. Comment ? Je n'en sais rien. Il y a une connexion entre la ville terrestre et la ville céleste. La ville terrestre régénérée et la ville céleste qui est la gloire de Dieu dans l'univers tout entier, dans le cosmos tout entier. Merveilleux Seigneur, nous t'adorons pour cela. Amen.